Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle chronique. Le 18 décembre 2021, dans le cadre de la Journée internationale des migrants, nous recevions Mathilde Dubessé de la CIMAD de Lyon, présente à Bourg pour une conférence organisée par le collectif Tous Migrants. L'occasion de faire un point sur la situation des migrants dans la région. Bonjour Mathilde Dubessé, très content de vous voir aujourd'hui avec nous sur Radio B. Mathilde Dubessé, vous faites partie de la CIMAD à Lyon. Si on disait deux mots sur la CIMAD.
Alors, deux mots sur la CIMAD, une association de solidarité active auprès des personnes étrangères, hein, en demande d'exil, enfin, en demande de papiers et de personnes réfugiées. Et donc, la CIMAD, eh bien, intervient très régulièrement donc, dans toute la région, hein, Rhône-Alpes-Auvergne. Nous avons des permanences juridiques pour aider les personnes à pouvoir monter un dossier pour ces fameux papiers, hein, qu'il faut pouvoir avoir. Et puis aussi, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation. Par exemple, ce soir, un peu partout, hein, on aura des manifestations, et on a une grande manifestation à Lyon qui est prévue, hein, pour rappeler tout le travail qu'il faudrait faire quand même pour améliorer la situation de toutes ces personnes qui sont sans logement, qui sont sans papiers, qui sont maltraitées, il faut bien le dire, et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir une vie normale, une vie où
avoir une vie normale. Exactement. C'est pas pour rien que la CIMAD est née.
Alors, elle est...
Par rapport au contexte d'immigration.
Alors, elle est née dans des circonstances tout à fait particulières, puisqu'en fait, il s'agissait tout simplement au départ d'accueillir des personnes qui étaient évacuées du nord-est de la France parce que l'Allemagne nazie allait attaquer. Nous sommes en 1939. Et donc, il a fallu donc accueillir dans des gares, dans d'autres lieux, toutes ces personnes, 600 000 personnes, hein, qu'on a reçues, qu'on a accueillies, qu'on a hébergées, à qui on a donné le nécessaire pour vivre à peu près correctement. Une partie de cette population-là, d'ailleurs, est repartie quand, bien sûr, la guerre avait été déclarée, mais déjà, de toute façon, l'occupation était là. Et par la suite, la CIMAD aussi a continué, alors là, à s'occuper de tous ceux qui étaient enfermés, internés, dans des camps que le régime de Vichy a installés. Et dans ces camps, il y avait des antifascistes, anti-nazis, allemands, autrichiens, des gens qui avaient fui et cherché donc être protégés en France et qui se retrouvaient donc rattrapés, hein, par les troupes allemandes. Beaucoup de personnes juives, des Espagnols, enfin des gens d'un petit peu partout. Et donc, ce sont des femmes d'ailleurs qui ont été à l'origine d'une. Elles ont décidé d'entrer dans ces camps. Elles se présentaient comme des humanitaires. Les directeurs de camp étaient finalement assez contents d'avoir des personnes qui puissent les aider. Mais en même temps, elles faisaient de l'humanitaire, bien sûr, mais en même temps, elles étaient en contact avec la résistance. La résistance...
Donc, destin de femmes remarquables.
Ah oui, vraiment des femmes remarquables. Une certaine Madeleine Barrault, qui a eu des faux papiers très rapidement, qui a sillonné toute la région avec en prenant quand même de grands risques. Hein. Et ce sont ces femmes, enfin des femmes et des hommes aussi, bien sûr, mais qui passaient un peu plus inaperçues, hein, qui étaient moins difficiles, peut-être moins contrôlées aussi. Et ce sont elles, hein, qui ont vraiment fait vivre tous ces lieux, des lieux d'accueil, hein, des homes d'enfants, comme on disait à l'époque. Il faut dire qu'il y avait aussi un soutien clandestin, mais très utile, des Suisses. Hein. On est dans le monde protestant, il faut le dire aussi à la CIMAD. Et là, il y avait des liens avec avec la Suisse et la possibilité de faire d'exfiltrer, par exemple, des enfants, des familles, pour qu'elles puissent se regagner la Suisse pour être protégées et pour échapper, bien sûr, aux rafles, hein, et à tout ce qui risquait de se passer pour eux. Hein. Voilà.
Donc on a connu cette période très difficile de la guerre, où des actions héroïques ont été menées. Et aujourd'hui, donc, on est dans un contexte où les choses s'aggravent pour les migrants, alors que de tout temps, la migration a existé.
Et oui, malheureusement, comme vous le dites, les choses s'aggravent. C'est-à-dire qu'on a maintenant de plus en plus de gens qu'on appelle les sans-papiers, hein, ces papiers qui n'ont pas pu avoir parce que, tout simplement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du côté des préfectures, du côté des institutions, où on a, par exemple, pour des personnes qui demandent tout simplement d'avoir un titre de séjour, eh bien, il y a maintenant ce qu'on appelle la dématérialisation systématique dans ces lieux, dans les préfectures, par exemple, hein, et les gens ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, il y a un moment où ils n'arrivent plus du tout, effectivement, à pouvoir accéder à leurs droits, alors qu'ils sont... Ce ne sont pas des personnes qui pourraient poser problème. Au contraire, ce sont des familles, ce sont des gens qui sont arrivés ici, qui avaient quelques bonnes raisons de venir en France. Ce sont des gens qui sont, par exemple, dublinés aussi, c'est-à-dire ces personnes arrivées en première instance dans les pays d'accès sur notre territoire, sur notre Europe, hein, donc l'Espagne ou l'Italie ou la Grèce, hein, par exemple, et ben ces gens-là, donc tout à coup, ben, ils arrivent à Lyon et puis on leur dit, ben non, de toute façon, vous êtes en France et ce n'est pas là que vous pourrez faire la démarche, hein, pour une demande d'asile, par exemple. Donc ben, on va vous proposer de retourner en Italie, par exemple, hein, ce qui les met.
C'est-à-dire que vous êtes en train de dire presque qu'on retrouve un ostracisme qu'on retrouvait pendant la guerre.
Alors, je ne sais pas si on pourrait dire ça tout à fait comme ça. Je ne pense pas que
exagéré de le dire.
le personnel des préfectures, le personnel de toutes les instances qui s'occupent, je parle l'OFPRA, par exemple, la CNDA, je ne pense pas qu'ils soient dans une posture de ce type-là. Mais sauf qu'il y a quand même des directives au niveau du ministère de l'Intérieur, quand même, hein, qui posent quand même question.
Moi, je lis un des écriteaux qui est manifeste chez vous. Ces jeunes ne sont pas des chiffres. Arrêtons de les manipuler comme tels. Ils ont des histoires, des projets, ils ont des visages. Soutenons-les, arrêtons de les maltraiter.
Alors, évidemment, ces jeunes sont de fait maltraités. Pas forcément d'ailleurs par volonté de maltraitance de la part de personnes qui sont en face d'eux, au moment où ils ont par exemple une évaluation, ben, pour savoir s'ils sont majeurs ou mineurs. Mais il y a quand même dans le fonctionnement des institutions qui sont censées s'occuper effectivement de ces jeunes, il y a quand même des manquements. Il y a quand même effectivement peut-être encore mieux former ce personnel qui est lui aussi parfois en difficulté aussi, hein, face à ces jeunes. Et ces jeunes, c'est l'avenir du pays. Ces jeunes-là, on va sans doute les retrouver dans 10-15 ans. Ce seront des gens qui seront installés en France et qui vont participer au développement de notre pays. Sauf que là, pour l'instant, on est en train de les laisser dans une déshérence, hein, qui est quand même grave. Hein,
à la merci de patrons peu scrupuleux, de marchands de sommeil.
Oui, de marchands de sommeil, de réseaux de trafic. Il se passe des choses parfois assez moches, il faut bien le dire, hein. Il y a quand même quelques réseaux qui existent dans lesquels on souhaite vraiment qu'ils ne puissent pas tomber. Alors, il y a quand même quelques petites lueurs, je tiens à le dire. Bon, il se trouve que je suis sur Lyon et que donc dans le quartier de la Croix-Rousse, on a vu quand même une mobilisation de la population locale qui est voyant la situation dans laquelle se trouvaient des jeunes qui étaient sous tente par moins 10 degrés les derniers jours, là. Eh bien, des gens qui se sont mobilisés, qui ont proposé d'héberger un temps, qui ont proposé de la nourriture, qui ont apporté des vêtements, et on a même organisé quelques petites fêtes, quelques petits moments festifs pour que voilà, ces jeunes se sentent accueillis, se sentent soutenus, se sentent inclus, hein, dans une collectivité, dans quelque chose.
Ça rend optimiste sur la nature humaine.
Alors, je crois que je suis pas pessimiste forcément, hein, mais je voudrais dire que on a reçu tout récemment un message de notre secrétaire général de la CIMAD qui disait que en fait. Il faudrait quand même prendre conscience du fait qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui sont là, prêts à accueillir, hein, et à s'occuper effectivement, accueillir et être dans l'hospitalité à l'égard donc de ces personnes qui nous arrivent et qui sont dans des situations épouvantables. Donc et ça,
comme vous savez, comme c'était le cas en Briançonnais également.
Voilà. Alors bien sûr, le cas du Briançonnais est tout à fait impressionnant, hein, de tout ce qui s'est fait dans la région de Briançon. Là, je suis vraiment assez même admirative, hein, de toute l'énergie qui a été développée pour pouvoir accueillir correctement et et voilà, être auprès de ces personnes. Je pourrais vous donner aussi un petit exemple beaucoup plus modeste, mais dans l'Ouest lyonnais, qui est une région où le Front National avait quand même pas mal de votes, eh bien, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de petits villages où les gens se sont organisés pour accueillir une famille, une dame seule avec enfant, et s'organiser, mais vraiment pour des choses très concrètes, hein, pouvoir les emmener à la préfecture parce qu'il y a un rendez-vous, s'occuper des enfants, et petit détail aussi, j'ai moi-même accompagné une jeune femme centrafricaine avec deux petits, et elle est arrivée dans un hameau, elle était hébergée par un couple qui avait une maison assez vaste, ils avaient la place de l'héberger, et alors au début, oulala, les gens du hameau qui disent, mais cette négresse, qu'est-ce qu'elle vient faire là? 3 semaines après, les gens venaient dire, oh mais ils sont jolis ces petits, puis finalement, ils sont comme nous.
Donc il suffit de connaître.
Oui, se connaître ces personnes, pas être dans le recul, parce qu'ils sont un peu différents de nous, hein, parce qu'ils pas, et respecter ces gens-là, qui sont des humains comme les autres, et il n'y a pas de raison qu'on les traite si mal, hein, en ce moment, hein, dans notre pays, qui a quand même comme devise liberté, égalité, fraternité. Et ça, la fraternité, on ne peut pas dire qu'elle soit très, très pratiquée, hein, actuellement, à l'égard de ces personnes qui nous arrivent. Hein,
et qui sont toujours arrivées, parce que vous avez un point de vue d'historienne, et donc de tout temps, il y a eu des circulations de population.
Ah ben bien sûr, depuis les temps très anciens, depuis la nuit des temps, les humains ont circulé, ont traversé des régions entières, ont rencontré, alors il y a pu y avoir des moments un peu de friction, hein, mais les humains ont énormément circulé, on le sait d'ailleurs par de quelque chose assez étonnant, c'est les ADN qui ont été prélevés dans différentes régions du monde, et on s'est aperçu que, eh bien, il y avait des types d'ADN qui étaient les mêmes, à parfois des centaines et des milliers de kilomètres d'écart, ce qui veut dire qu'il y avait eu des circulations entre le Caucase et le Golfe Persique, entre d'autres territoires. Donc les humains sont des gens qui bougent et qui continueront à bouger, et empêcher les gens de passer, comme on le fait actuellement pour la Méditerranée et d'autres endroits, c'est quelque chose de tout à fait contraire à la marche de l'humanité, enfin à ce que le monde nous a appris depuis si longtemps. Et puis les migrations, on les trouve. En historienne, c'est vrai, je me suis intéressée à savoir à peu près selon les moments, hein, et il y a effectivement pratiquement très régulièrement des migrations, des circulations, les grandes migrations quand on va partir en Amérique. Alors il y a aussi les aspects plus noirs parfois, hein, plus sombres, quand les grands voyages pour les États-Unis dans les autres continents que l'Europe, ont pu arriver aussi à la traite des esclaves africains. Donc là, c'est un volet plutôt sombre. Hein, plutôt,
tout n'est pas rose.
Tout n'est pas rose. Hein, mais n'empêche que ces rencontres aussi... Alors, les rencontres ont pu être parfois rudes, c'est vrai, mais le fait qu'aussi on est des cultures très diverses et que ces cultures se rencontrent, même si parfois ça peut un petit peu être compliqué, c'est quand même aussi la richesse de notre de nos vies, hein, de ne pas être seulement entre nous, hein, entre soi, de cet entre-soi qui veut surtout se prémunir de ce que pourrait l'autre, ce qui pourrait lui arriver de la part des autres. Voilà.
Que la peur vienne de l'ignorance, en fait.
Oui, alors la peur, c'est oui, parce qu'on se connaît peu, parce que en plus il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Le fait de tout de suite imaginer que ce sont des sauvages, ces gens-là, parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils ont des comportements différents, parce qu'ils mangent pas la même chose, et tout ça, ce sont des choses qui peuvent être un jour, qui pourraient être un jour réglées par, au contraire, le fait de s'intéresser à ce qu'est celui qui est en face de nous, à ce qu'il mange, à ce qu'il aime, à ce qu'il fait, et c'est là qu'on s'apercevrait qu'effectivement, on enrichit plutôt notre vie, hein, par le fait effectivement d'aller vers des autres, hein, les autres qui sont autres que nous et qui ont aussi un passé différent, qui ont aussi un bagage différent, mais en même temps il y a quand même aussi des éléments communs, hein, L'hospitalité, c'est quand même quelque chose que la Grèce antique a beaucoup mis en exergue. Pour avoir aussi circulé au Maghreb, moi j'ai toujours été très frappée par l'hospitalité. L'hospitalité en Kabylie, l'hospitalité dans des régions d'Algérie, hein, où une personne arrive, et bien d'emblée, et bien, c'est le verre de thé, c'est vous êtes chez nous. Hein. Et cette hospitalité, je trouve que vraiment, dans notre vieille Europe et en notre territoire français, on devrait quand même pouvoir la réhabiliter et la réactiver, hein, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrivera peut-être aussi à sortir des difficultés dans lesquelles on est, et surtout, moi, je pense quand même tout particulièrement à ces personnes étrangères qui sont franchement, franchement maltraitées, et pour lesquelles on devrait et on doit faire. Ça, c'est vraiment un devoir de travailler à leur
mieux-être,
au fait qu'ils puissent être reconnus, qu'ils puissent vivre une vie normale, effectivement, familiale, amicale. Et en plus, ce sont des gens qui ont beaucoup à nous apporter, voilà. Je pense.
Je vous remercie, Mathilde Dubessé, en espérant qu'on va retrouver le fil de notre histoire avec un sens de partage plus prononcé.
Oui, oui, oui. Je pense qu'effectivement, je le souhaite très fortement. Voilà.
Amis auditeurs, à bientôt pour une prochaine émission.